Bonjour à tous et merci d'être fidèles à l'émission Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche sur RMJ. Cette aventure, Claude Perronnet l'a commencée voici 6 ans, en septembre 2015. Cela représente 292 émissions et 184 chroniques. Claude Perronnet qui nous a promis d'atteindre la 200e chronique. Nous allons faire une petite pause et nous reprendrons le cours normal des émissions produites par Claude Perronnet à compter du 16 octobre 2021. En attendant, et chaque week-end, nous vous proposons la rediffusion des premières émissions, celles de septembre et octobre 2015.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séquence des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche. Dans une série que nous appellerons des travaux, des saisons et des jours en Basse Marche, notre séquence d'aujourd'hui s'intitulera « De la pomme au cidre ». J'emprunterai les textes à Charles Sylvestre, avec des extraits de « Au soleil des saisons », de « Pleine terre » et du « Voyage rustique », à Jean Blanza avec un extrait de « Enfance », à messieurs Kiner et Perronnet avec un extrait de « Quand Turgot régnait en Limousin », à l'association des pommes du Limousin et des croqueurs de pommes.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Nous allons entrer dans le vif du sujet avec Charles Sylvestre qui, dans « Au soleil des saisons », nous parle ainsi d'octobre, de novembre, ou plutôt et surtout, fait parler le tonnelier de Peyrade-Bellac à propos de la pomme et du cidre. Les nuits sont plus fraîches. Au verger, les feuilles du cerisier s'empourprent. Les pommes à cidre tombent dans l'herbe. Au jardin, une suprême rose rouge brûle et se consume au soleil dans une cendre impalpable qui monte. Des charrettes pleines de pommes roulent vers le pressoir de la rivière. Les pommiers sont dépouillés, leurs troncs plongent dans une masse de pommes rouges. Quelques-unes restent encore suspendues aux branches. Ce sont les pommes à couteau. Voici un arbre à rainettes. Avant de manger ces fruits, il faut les tenir dans la paume et les approcher de l'oreille. Alors, ils parlent à la caresse des mains. Ils rendent, on ne sait quel frais murmure de la terre comme le coquillage léger, le bourdonnement des flots invisibles. Il y aura du cidre cette année. Le Limousin en donnera à la Normandie, peut-être. On les recherche, les pommes. Celles de chute naturelle et les fruits de garde, les bonnes pommes à couteau qu'il faut prendre à même la branche. Ces pommes-là, elles ne sont pas faites pour toucher la terre. Une petite mâchure de rien du tout, ça les offense. Voyez toutes ces barriques, elles ne tiendront pas le même jus. Pour du bon cidre, il faut du bon fruit. Si vous avez dans le verger une certaine pomme laineuse, grasse, douceâtre, elle ne donnera pas un bon jus plaisant à la langue, et encore moins à l'estomac. Parlez-moi de la paradis, c'est une vraie joie de cidre, une fois pressée. Et aussi une belle pomme mangeable. Elle est vivante au couteau. Elle est respectée dans tous les pays, blanche d'un côté, rouge de l'autre, aussi dure que la neige bien tassée, et elle garde bien dans le fruitier. En haut du bourg, on a installé un pressoir. Il y a une vis qui sert, vous savez. Celui de la rivière, il ne presse qu'à 200. Ah, il ne faut pas aller hors de sa force, on le couperait tout sec. À cette heure, on presse plus vite. Ah diable, plus vite, toujours plus vite. C'est le tonnelier de Peyrade-Bellac qui parle ainsi des pommes et du cidre. Longtemps, le cidre est resté la boisson de la campagne. Il faudra du temps, bien après la guerre de 14-18, pour que le vin détrône le cidre comme boisson quotidienne. Mais, contrairement à ce que l'on croit, l'introduction du cidre en Limousin ne date que de la fin du XVIIIe siècle. Voici ce qu'on peut lire dans l'ouvrage « Quand Turgot régnait en Limousin ». C'est aussi sous Turgot que le cidre fit son apparition dans la région, chez les plus riches, bien sûr, non sans de fortes réticences. Le cidre, qui passe aujourd'hui en Limousin pour une boisson traditionnelle, ne démarra vraiment qu'au XIXe siècle, s'élevant d'une production de 5000 hectolitres en Haute-Vienne en 1840 à une production moyenne de 72 000 hectolitres vers 1900. À l'époque qui nous occupe, les années 1760, il apparaissait tout juste, sous l'égide d'un intendant, Turgot, lié à la Normandie par les origines de sa famille et par son amitié avec la duchesse d'Anville, propriétaire de la Roche-Guyon. En octobre 1767, Turgot demanda pour la première fois des greffes à sa duchesse. Les pommiers à cidre se multiplièrent et s'ajoutèrent aux pommiers indigènes qui faisaient, avec les noyers, le fond des arbres fruitiers. Et alors, mais avec une grande lenteur, l'aventure du cidre commença. L'association Pomme du Limousin a rédigé une courte histoire de la pomme du Limousin que je reprends ici.
Les petites histoires font les grandes histoires.
Originaire de Turquie et d'Iran, le pommier a été introduit en Limousin par les Romains. L'adaptation a été relativement facile. Au Moyen-Âge, on cultivait sur des pommiers sauvages greffés, surtout dans les jardins appartenant aux châtelains, aux seigneurs, ou bien encore dans les monastères. Le paysan plantait ses pommiers près de la maison, dans les cours communes, les jardins ou les haies. Au XIXe siècle, l'alimentation des Limousins était basée sur trois productions principales, la pomme de terre et la châtaigne. Vers 1900, les pommes du Limousin sont principalement destinées au cidre. Le mauvais état des voies de communication limitant l'expédition des pommes à couteau hors de nos frontières. Le cidre permet aussi d'utiliser la pomme toute l'année, car la plupart des variétés n'avaient pas une conservation suffisante pour traverser l'hiver. 50 variétés de pommes étaient alors recensées, en partie disparues depuis. Cependant, dès cette époque, il est signalé que les pommes du Limousin, et en particulier la Sainte-Germaine, que l'on appelait encore la lettre, sont dotées de qualités de conservation hors du commun. Ainsi, jusqu'en 1948-1950, on conservait les pommes simplement dans les caves, parfois même au grenier où elles voisinaient avec les noix et les châtaignes mises à sécher. Il était alors de tradition d'attendre les premières gelées pour consommer la lettre, non traditionnelle, nous l'avons dit, de la Sainte-Germaine. On arrivait à la consommer jusqu'au mois de mai. Nous verrons plus tard qu'une variété locale, la fère de la Haute-Vienne, une pomme verte et rouge à chair ferme, pouvait se conserver jusqu'au mois d'août de l'année suivante. Grâce au chemin de fer, le commerce des pommes à couteau va se développer vers Paris, vers Marseille, l'Allemagne ou l'Angleterre. C'est ensuite vers les années 1950 qu'arrive en Limousin la fameuse pomme d'or, la Golden. Contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, la Golden, Delicius ou pas, n'est pas la seule pomme du Limousin. En voici la preuve, voici une liste des variétés d'anciens pommiers du Limousin et de la Marche. La Belle-Fille de l'Indre, à chair sucrée et à maturité tardive. La Belle-Fille de la Creuse, à floraison tardive, à peau jaune avec des stries rouges, très parfumées et très juteuses. la belle de Liard, la belle limousine, la belle fleur à fruits assez gros, plus large que haut, la calville rouge de Savignac, la calville rouge de Verneuil, la calville de Dun-le-Palestel, ou bonnet carré ou belle dunoise, la carette, maturité en novembre, excellente conservation, la carteau, la chaux, la cheval, la courpendue gris. La courpendue gris est une des plus anciennes variétés connues depuis le 15e siècle. C'est une grosse pomme, brun-vert, rugueuse, à la chair fine, sucrée, ferme, croquante, avec un arôme de cannelle et un arrière-plan d'anis. C'est une excellente pomme de table à floraison tardive, à maturité fin octobre et qui se conserve jusqu'en avril. La lettre Sainte-Germaine ou de Comte ou de Lombard, connue elle aussi depuis le 15e siècle, est une pomme de longue conservation et qui était très facile à sécher. Il y a aussi la Denise, la fère de la Haute-Vienne, verte et rouge à chair très ferme, qui se conserve jusqu'au mois d'août de l'année suivante, avons-nous déjà dit. La Pouillade, la Drador de la Creuse, la Châtaignier, qui est une pomme quelconque crue, mais qui est excellente cuite. La Feuillot, la Lunou, la Madou Blanc, la Madou Rouge, la Montplaisir, l'Oignon, la Paradis, la Pierre ou Belle des Buis. Les Rainettes, alors la Rainette Blanc, la Rainette Bure, la Rainette Orange de la Haute-Vienne, la Rainette Verte qui est très très tardive, la Rainette de Sainte-Fère que l'on appelle encore la Canada Blanche de la Creuse, qui est une grosse pomme de teinte jaune lavée de rouge, un rouge qui fonçait avec le soleil, la Rainette Dorée de la Creuse, la Rainette Marbrée de la Creuse qui est un fruit régulier de très bonne conservation, la Rivière, la Rose de Verneuil, la Rouge de Hollande, la Rouge des Vignes, la Rosier Saint-Georges, la Sangraine, que l'on appelle encore Adam, qui est une pomme à chair jaune, la Safran, la Suire à Troc, la Vernajou, la Vigneronne, qui est très productive et que l'on utilisait aussi comme pomme à cidre. Je ne veux pas être passéiste, mais quand même, tout ça, c'est un peu mieux que l'insipide golden de nos supermarchés.
À quels uns se vouer au-dessus de tes hanches sous ton chemisier un soir de dimanche, qu'il fait bon rêver au-dessous des pommiers, au-dessous des pommiers, à travers les branches.
À propos des pommiers en fleurs, ce petit texte simple et ciselé, une véritable dentelle littéraire de Jean Blanza tiré de Enfance.
Les petites histoires font les grandes histoires.
Les bourgeons mielleux se sont gonflés au bout des branches. Enfin, des pommiers fleurissent. Naguère confondus dans la troupe triste des arbres, ils révèlent tout à coup un merveilleux pouvoir. Isolés dans les haies verdies, alignés le long des chemins, groupés aux vergers, ils ont pour l'enfant le prestige des grands seigneurs. Autour de chacun flotte une atmosphère légère de beauté et de distinction. Quand il entre dans le cercle parfumé que leur odeur dessine, il a le sentiment de troubler une solitude pure. Il va vers ceux qui, solitaires au coin d'un champ, dressent sur leurs branches en désordre les pavillons du printemps, comme vers les héros des contes. Dans le verger, il entre au milieu des pommiers ronds, dont les branches basses frôlent sa tête, humble et reconnaissant comme s'il s'insinuait dans la salle en fête d'un palais. Ses yeux ne se lassent pas de s'emplir de leur blancheur qui fait couler en lui une joie sans trouble. Comme le simple thème d'une belle chanson, elle se détache du chaos et part, et va droit son chemin, éveillant la fraîcheur de la beauté du monde. Elle dure, et sa précieuse présence répand sa jubilation. Elle se corrompt, expire, mais c'est de ses restes épars elle venait. Elle passe à nouveau dans une autre apparence où transparaît l'ancienne, juste assez pour que tu la saches immortelle. Lorsque sa piété s'apaise, l'enfant casse un rameau fleuri et admire encore la fleur blanche et rose qui colle sa vie fragile au bois verdâtre.
Un enfant et un pommier qui parlera le premier. L'enfant est comme à l'école, le pommier prend la parole. Regarde-moi par la vitre, de quoi est fait ton pupitre? Je suis ton cheval de bois, et ton lit c'est encore moi. Je fus même ton berceau, ton traîneau et ton cerceau.
Nous allons maintenant retrouver les charrettes qui courent vers le pressoir. Et cela avec Charles Sylvestre.
Petites et grandes histoires de la basse marche. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Je m'en vais sur la route de Belfond. Les charrettes roulent vers le pressoir, chargées de sacs à plein bord. D'autres sont remplies de fougères sèches dont on fait litière. Des garçons de métairie, la casquette rabattue sur les yeux, vont tranquillement à leur besogne, pressent de l'aiguillon un attelage qui ne marche pas plus vite. La rivière brille entre les aulnes, une senteur de pommes broyées passe dans l'air. J'entends craquer dans le moulin la vis du pressoir sous la pesée d'une épaule d'homme. Près du seuil s'amassent des monceaux de pelures rougeâtres. Combien de temps encore le cidre nouveau coulera-t-il dans une odeur de farine? Et nous allons maintenant, toujours avec Charles Sylvestre, nous rendre au pressoir. Gentou n'est pas bavard ce matin. Il charge un sac sur ses épaules, gravit un escalier extérieur en pierre brute. Il verse les pommes dans une sorte de long sabot incliné dont on aurait enlevé le dessus. À la pointe, une planchette retient les fruits qui ruisselleront dans la râpe où va tourner un rouleau garni de lames. Farine pose la courroie sur les roues que l'eau se met à mouvoir. Cela fait, il monte à l'étage. Gentou reste en bas, devant le bac en bois et l'embouchure de la râpe. Farine enlève la planchette, s'accroupit, modère de la main le ruisseau des fruits qui coule à travers le plancher. Gentou s'évertue, ramasse avec une pelle la pâte et la jette dans le bac. Elle tombe en blanc monceau de pluie figée. Très vite, elle devient rougeâtre. Des guêpes bourdonnent autour et chuchotent aux oreilles de Gentou. De nouveau, le grand sabot est rempli. La râpure des pommes continue sa lourde coulée. La machine tourne, maintenant à vide. Gentou roule auprès de la porte sabarique, il la cale soigneusement et lui sourit. Farine descend, arrête le mouvement de la râpe, il met la pâte dans des sacs aux mailles peu serrées que Gentou tient par les coins. Chaque sac est porté debout dans un seau jusqu'à la presse. Farine les sort un peu, puis il lui donne une forme carrée en le repliant. « Ce n'est point des coussins pour l'hiver, hein, » dit Gentou. Farine lui donne une tape sur l'épaule et grogne. « Ah, mieux diable, tu sais bien ce qui est bon. » Les sacs sont étagés exactement en pile, d'où sort un jus trouble, crémeux. Farine les couvre d'un madrier, il fait descendre dessus une pièce de bois, la vis du pressoir joue au moyen d'une longue barre, le cidre coule dans un cuvier. Gentou, tout entier à sa besogne, emplit seau à seau sa barrique. Il s'agit de tirer le dernier jus. Farine pèse de plus belle sur la barre qui mord dans les montants de la vis. Il s'agrippe à deux mains. Il la ramène à lui gravement de façon que tout son poids l'entraîne. Le bois craque. La barrique de Gentou est pleine. Une mousse blanchâtre se met à pétiller sur la bonde. « Voilà de quoi te mouiller la langue, vieux chat !» dit Farine à Gentou. Dans le pressoir, il y a une épaisse odeur de pommes broyées. Le ciel commence à bleuir. Par une fenêtre étroite, on voit l'écluse, merveilleuse chevelure d'eau lissée de soleil. En bas, entre les pierres noirâtres, une bouillonnante neige tourne et fuit.
Blanc, 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 bl
Pour conserver le cidre, il faut des tonneaux, et fabriquer des tonneaux, c'est tout un art. Écoutons le tonnelier de Peyrade-Bellac interrogé par Charles Sylvestre dans Au soleil des saisons.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Le tonnelier du Vieux-Bourg est un petit homme maigre et desséché. Il travaille sous un hangar recouvert d'une paille de topinambour. En ce mois, nous sommes en octobre, il ne manque pas de besogne. Comme je m'approche pour le saluer, il est tout entouré de futailles. Il se redresse. Il vient de placer dans une barrique une mèche soufrée qu'il a fixée à la bonde au moyen d'un fil de fer. Vous voulez y mettre votre nez ? Je vais ôter la bonde, dit-il en riant. Cette diable de fumée, ça purifie le bois, mais ça fait éternuer les chrétiens. Hein ? Il se met à rire sourdement et se redresse dans son habit de gros velours côtelé. Il devient grave, mais le rire monte à ses yeux qui se brident. Il tire de sa poche son paquet de caporal, puis il se hâte de travailler. La nuit descend vite en octobre. « Comment avez-vous appris le métier ?» lui dis-je. Oh ben, « J'ai appris comme ça, tout seul, en écoutant la parole des anciens, en regardant du bon œil. J'ai compris qu'il faut avoir du bon bois, savoir le manier, l'employer comme il doit l'être. Pour chaque douve, vous avez une clé. On fait le cintre au compas. On a pris ce cintre en 6 points. La clé est divisée en 6 points. Elle arrive à faire le rond. Bien dressée, la barrique, elle sera toujours ronde. Et elle n'aura pas de faux rond. Elle sera ronde complètement. Il faut lui donner son gros ventre. Un centimètre de plus, elle serait droite comme une caisse. Vous voyez, les douves sont plus larges au milieu qu'elles ne le sont à leurs deux bouts. Une fois que vous avez bouclé un bout, vous amenez les autres à toute force, on les chauffe, on fourre le feu dedans, il faut amener peu à peu. Une fois au point, on met les cercles. On laisse l'emplacement du fond, c'est comme ça. Toutes mes douves de barrique sont faites avec des perches de châtaignier. C'est un bois propre. Il ne prend pas la pourriture, il est durable. Il a une chair bien ferme et du cœur. On coupait les châtaigniers tous les 7 ans. Il y en avait qu'on laissait plus longtemps sur leurs pattes. Il fournissait du fagotage pour les boulangers, des perches à refendre pour les lattes, les plafonnages et aussi pour les treilles d'enclos. Les bons fendeurs sont difficiles à trouver. Il faut la main. À 7 heures, on a saccagé les taillis. On ne pouvait pas attendre 7 ans. 1 an, 2 ans, c'est trop long aujourd'hui. On veut trop gagner, aller trop vite. Oh, tenez, les gens m'ont apporté trop de travail à la fois et ils me disent « Arrange-toi, j'ai besoin de mes barriques, il y a des pommes ». Ah oui, il y a des pommes, mais j'ai pas 100 bras, mais ta vie. Le vieux tonnelier râle et c'est bien normal, mais finalement les barriques seront prêtes à temps et il n'y a plus qu'à les remplir de cidre. On va installer la cannelle, c'est un petit robinet en bois que l'on fixe dans le bondon. On n'oublie pas le douzi qui permettra de régler les gaz du cidre. Parfois on pratique 1, voire 2 soutirages. Un transvasement dans une autre barrique, puis c'est la fermentation. Nous avons été patients. On peut maintenant tirer le cidre à la bouteille ou au pichet et bien sûr le boire. Merci de nous avoir suivis pour cette séquence des petites et grandes histoires de la basse marche. Nous l'avons fait avec des textes de Charles Sylvestre, de Jean Blanza, de Michel Kiner, de Jean-Claude Perronnet, de l'Association des pommes du Limousin et des croqueurs de pommes. Sur le plan musical, nous avons fait appel aux chanteurs Samuel Perronnet, Christian Millet, Gilles Vigneault, au duo Montanero-Caves, à Alan Stivell, au groupe Maluzerne et Bélissandre que nous écoutons en ce moment. Nous vous invitons à nous rejoindre le week-end prochain. Et la semaine prochaine, nous nous intéresserons aux tanneurs et aux tanneries de Bellac et de la Basse Marche. À samedi prochain donc, et très bonne semaine à vous tous.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Tu vends le soir à ta tombe et on court.